la contamination des poissons et des autres fruits de la mer va poser des problèmes de contrôle extrêmement difficile à mettre en place, parce que d'une part, dans les 10 à 15 premiers jours de la crise, les vents ont emporté vers l'océan les panaches radioactifs, et que d'autre part, il est probable que des rejets liquides aient eu lieu directement en mer depuis l'emprise de la centrale nucléaire qui est en perdition, notamment à cause des eaux d'extinction des réacteurs qui peuvent avoir été déversées hors des réacteurs ou hors des piscines. Donc il y a deux sources de contamination. Premièrement, pour les poissons côtiers et les coquillages, c'est très très embêtant pour les Japonais qui sont des gros mangeurs de produits de la mer. Ils mangent en moyenne 80 kilos de poissons, mais en fait, en bord de mer, dans les petits ports, ils peuvent en manger jusqu'à 150-200 kilos par an. Donc le poisson est fondamental pour leur régime alimentaire, enfants, adultes, personnes âgées. Et là, il y a vraiment un problème crucial pour les Japonais qui ensuite va s'étendre, même si la contamination va se diluer en mer comme elle se dilue dans l'atmosphère, mais elle va s'étendre à d'autres populations parce que dans l'océan Pacifique du Nord-Ouest, à cet endroit, il n'y a pas que la flotte japonaise qui pêche, il y a aussi les Russes, la Corée du Sud, Taïwan et la Chine. Donc il va falloir que ces pays mettent rapidement en place ou bien une zone d'exclusion sur certains périmètres maritimes ou bien un contrôle très strict des poissons à la débarque.
Quels sont les risques réels pour les consommateurs ?
Ils sont encore hypothétiques, mais étant donné les rejets, la nature des rejets, pour les gros consommateurs, les risques sont de contracter à terme des cancers d'origine radiologique à cause de la présence éventuelle de césium et de plutonium qui s'accumuleraient dans les chairs des poissons au-delà des normes admissibles. Le plutonium est évidemment le radionucléide le plus toxique et surtout très long. Son rayon d'action, si je puis dire, est très très long puisque sa période est de 24 000 ans. Alors, nous ne voulons pas être catastrophistes, mais quand nous entendons les autorités européennes dire qu'il faut interdire ou être très vigilant vis-à-vis des importations en provenance du Japon, nous pensons que le risque est beaucoup plus large et qu'il faut être très vigilant sur les poissons qui sont pêchés en mer du Japon, mer de Chine, voire plus haut en mer d'Okhotsk, et être très vigilant parce que finalement le marché du poisson est peut-être le marché alimentaire qui est le plus sujet à la mondialisation et au manque de traçabilité.
Quels sont également les risques réels de voir ces produits contaminés arriver sur les marchés, que ce soit les marchés d'Asie, mais également en Europe ?
Alors les marchés d'Asie, je pense que les autorités chinoises, taïwanaises, par exemple, penseront à contrôler dans la mesure du possible, parce que quand même les ports de débarque sont très nombreux, à contrôler les poissons pêchés sur zone, voire à empêcher leurs bateaux d'aller dans les zones les plus probablement contaminées. Mais aussi, il faut être très vigilant en Europe pour éviter les importations de produits de la mer contaminés, sachant que c'est très difficile à faire parce que le marché est mondial, le marché manque de traçabilité. Et en plus, dans cette zone-là, il y a une part très importante de pêche illégale qui, par définition, échappe à tout contrôle.
Alors, plus généralement, donc sur cette crise environnementale, est-ce que les autorités gèrent cette crise de manière, adéquate ?
Elles ont incontestablement une hiérarchisation dans les priorités. La première, c'est d'essayer de maîtriser les réacteurs, mais on les sent tirailler entre la nécessité de ne pas créer de panique inutile chez des populations qui sont déjà terriblement handicapés finalement et tétanisés par l'événement, par les suites de l'événement, par les coupures d'électricité, par la pénurie alimentaire, par la perte des amis, des parents, des concitoyens. Et donc, ils sont tiraillés entre le fait de ne pas provoquer des troubles supplémentaires et ils doivent bien se rendre compte que, par ailleurs, il faudrait élargir les zones d'évacuation, peut-être faire plus de contrôle sur les produits alimentaires locaux et régionaux. Mais bon, je pense que cette deuxième étape va venir dans les jours et dans les semaines qui viennent, et on peut espérer que les doses absorbées par les populations feront que cette exposition de quelques semaines ne sera pas trop dramatique pour l'avenir. Mais incontestablement, il va falloir, au niveau des populations, prendre des mesures d'évacuation plus étendues et plus strictes. Et j'ajouterais, ce qui est très important, c'est que dans une troisième étape, tous les déchets contaminés devront être ramassés, le bâti qui va être évacué devra être nettoyé de façon à ce que les pluies ne lessivent pas les poussières radioactives, et que tous ces déchets radioactifs, dont les animaux qui vont devoir être abattus, puisque les vaches vont devenir des déchets radioactifs, du moins les troupeaux les plus près de la centrale, tous ces déchets, il faut malheureusement les appeler les déchets, devront être enfouis sur place, parce que la doctrine n'est pas d'exporter les déchets radioactifs dans des régions qui ne sont pas touchées. Donc enfouis ou incinérés, à voir. Mais on ne peut rien faire d'autre. Ça ne peut pas se trier, ça ne peut pas se valoriser, ça ne peut donc que se enfouir, en plus dans une situation d'urgence, avec des précautions minimales, d'étanchéité et surtout de sélection de sites, sans doute le plus près possible de la centrale. Mais le problème, c'est que la centrale, elle est tout près de la mer, et que il va falloir vraiment isoler ces centres de stockage pour qu'à terme, ils ne polluent pas la mer ou les eaux souterraines.